Nous sommes en direct, en live et en public de la place de la mairie, 21e festival BD, et nous y sommes bien, et ça c'est important. Vous l'aurez remarqué, on ne vous a pas donné un sommaire parce que tout a été un petit peu décalé, donc nous ne nous mêlerons pas de vous donner des horaires précises, mais rassurez-vous, il y aura du monde à nos micros, et ce jusqu'à au moins 13h. Et nous commençons avec un scénariste, Philippe Guillaume. Bonjour à vous.
Bonjour.
Philippe Guillaume. Alors Philippe Guillaume, vous êtes scénariste, vous êtes ce week-end sur Évreux, en particulier pour un ouvrage qui est Le Banquier du Reich. Vous avez proposé une conférence vendredi à la médiathèque. Cette bande dessinée est donc co-scénarisée avec Pierre Boisserie, et au dessin c'est Cyril Ternon. Alors en quelques mots, Philippe Guillaume, c'est pas votre première collaboration au scénario avec Pierre Boisserie?
Non, c'est une longue collaboration déjà, hein. On collabore depuis une bonne quinzaine d'années, hein. On a fait déjà deux séries importantes.
Dantès et La Banque.
Et La Banque, absolument.
Voilà.
Voilà, et en travaillant sur La Banque, eh ben, on a découvert le personnage du banquier du Reich, donc le banquier d'Hitler.
Exactement, on va revenir dans un instant. Du coup, entre Dantès qui parle quand même de finance et puis La Banque qui est clairement autour de La Banque, et là on est sur Le Banquier du Reich, il y a une attirance comme ça pour le milieu de la finance, pour le milieu bancaire?
Tout simplement, je suis un ancien journaliste financier économique, donc j'ai une longue carrière dans ce domaine, donc c'est vrai que c'est des sujets qui sont un peu de prédilection, voilà.
Parce que ça reste des milieux un peu opaques pour nous, grand public, et il y a toute une notion de documentation, de recherche qui est dans ces bandes dessinées. Sur Le Banquier du Reich, c'est même un documentaire, pour ainsi dire.
C'est presque un documentaire, oui, c'est un biopic avec un tout petit peu de fiction. Il y a 2-3 personnages qui n'existent pas, qu'on a introduits pour raconter l'histoire de façon un peu plus passionnante. Mais effectivement, c'est un ouvrage qui a demandé énormément de travail, de recherche, de documentation, retrouver les ouvrages qu'avait écrit ce fameux banquier, ses mémoires, etc. Mais également aussi des ouvrages qui ont été écrits sur lui par d'autres personnages, et notamment une énorme thèse de doctorat d'un docteur en histoire qui s'appelle Clavert, qui l'a présenté à sa thèse de doctorat à l'université de Strasbourg en 2006.
Alors justement, ce personnage, ce fameux banquier du Reich, c'est vous me reprendrez sur la prononciation, mais c'est Hjalmar Schacht,
absolument. Hjalmar, parce que il est à la fois d'ascendance allemande et danoise, donc c'est un prénom danois.
D'accord. Et qui est banquier dans les années 20.
Il est né en 1877 sous Bismarck, et il a déjà une longue carrière de banquier. Il a géré la Belgique pendant la Belgique occupée par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Et dans les années 20, effectivement, il est appelé par la République de Weimar pour sauver l'Allemagne de l'hyperinflation.
Voilà, sur l'entre-deux-guerres.
C'est ça.
Et puis, rapidement, il va devenir, sous Hitler, ministre de l'économie.
Absolument, il va rencontrer Hitler, il va être un peu séduit par le personnage, hélas, et il va un peu poussé par sa femme, sa première femme qui est nazie, elle, quand même, vraiment. Et il va redevenir président de la Reichsbank, c'est-à-dire président de la Banque Centrale, et ministre de l'économie. Il cumule les deux fonctions pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il rentre après en conflit avec Hitler lui-même.
Alors, on reviendra après sur les éléments de l'histoire, mais pour que les gens comprennent bien un peu la complexité du personnage aussi, c'est qu'au bout d'un moment, sur ordre de Hitler, il sera aussi envoyé en camp de concentration.
Absolument. C'est-à-dire qu'il va, dans un premier temps, énormément collaborer avec le régime nazi, puisqu'il va permettre la reconstitution du potentiel militaire de l'Allemagne. Et à partir des années 37-38, il va rentrer en conflit notamment avec une partie de l'entourage d'Hitler et notamment avec Göring qui vise sa place, qui va finir par obtenir la place de ministre de l'économie, qui va donc évincer Schaar, puis il sera évincé après de la présidence de la Reichsbank parce qu'il va critiquer notamment après la nuit de cristal les pogroms contre les juifs, même s'il est et on pourra en reparler, il est à mon sens judéophobe, mais pas racialement, c'est une autre judéophobie, et il va se retrouver en fait ministre sans portefeuille jusqu'en 1943, où il sera à ce moment-là complètement sorti du gouvernement à partir de 1943, et lorsqu'il y a l'attentat en juillet 1944 contre Hitler, qui est l'opération Valkyrie, avec l'attentat à la tanière du Loup qui sera raté malheureusement, où Hitler va s'en sortir, il y a une énorme répression qui est lancée en Allemagne, et dans le cadre de cette répression, il est bien évidemment arrêté et envoyé en prison, et là débute une longue errance du personnage qui, entre 1944 jusqu'à ce qu'il soit définitivement blanchi en 1950,
il fera partie des accusés à
Nuremberg, où il sera acquitté, il va passer dans pas moins de 32 lieux de détention.
D'accord.
Donc c'est incroyable, dont des camps de concentration comme Ravensbrück, Dachau, Niedendorf, etc.
Et puis il reprendrait une carrière dans la banque une fois qu'il aura été blanchi. Alors c'est ça qui est assez incroyable.
C'est ça qui est assez incroyable. Il va être définitivement blanchi en 1950. Il est libéré en 1948, mais il y a encore des queues de procès jusqu'en 1950. Et à partir de 1950, il va reprendre une carrière de banquier. Il va être conseil international vraiment d'un certain nombre de leaders de pays non alignés. C'est ainsi qu'il va être conseiller de Mossadegh en Iran. Il va être conseiller du général Sello en Syrie. Il va être conseiller également de Neguib, qui est l'ami de Nasser, en Égypte.
En Égypte.
Et puis, il va remonter sa banque en Allemagne. Pour finir, il mourra de sa belle mort au début des années 70, à l'âge vénérable de 93 ans, dans son lit.
Oui, alors quand même, c'est un parcours très particulier quand même, parce que c'est même hallucinant comme parcours.
C'est hallucinant comme parcours, absolument.
Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, Hjalmar a ce type de parcours, enfin, est-ce qu'il il fait déjà partie des élites,
alors, je ne sais pas, comment ça se passe. C'est un homme brillant, puisque lorsqu'il va être expertisé par le psychologue américain pour Nuremberg, tous les accusés de Nuremberg sont passés entre les mains d'un psychologue psychiatre américain, il a le plus fort QI, il a un QI de 196, donc c'est
énorme,
QI énorme, donc il est extrêmement brillant, extrêmement intelligent, mais il est également extrêmement sûr de lui, très hautain, il pense qu'il a toujours raison, et en fait, on apprend en l'écoutant et en regardant qu'il pensait pouvoir manipuler Hitler, ce en quoi il s'est quand même trompé.
Il faut une sacrée confiance peut-être qu'au vu de l'histoire aujourd'hui, quand on regarde en arrière, ça nous paraît évident,
oui.
Mais les circonstances étaient sûrement autres dans les époques. Ce parcours pas possible, mais il navigue en permanence entre, alors, aux portes du pouvoir, parce que les banquiers ne naviguent pas tous forcément dans le pouvoir.
C'est un opportuniste, et il est également extrêmement sûr de lui, je l'ai dit, et il pense que l'Allemagne, il est d'abord contre le traité de Versailles qui a été signé en 1918 et qui impose des réparations de guerre énormes à l'Allemagne, ça il est contre.
Oui, parce qu'elles étaient, pour mémoire, elles étaient presque indécentes en fait, ces réparations de guerre de 1918, c'était intenable.
On saignait l'Allemagne à blanc. Donc ça, il est farouchement opposé au traité de Versailles. C'est un anti-marxiste, il est complètement obnubilé par la présence des communistes qui sont importants dans les années 30 sous la République de Weimar. Il considère que la démocratie est un régime qui n'est pas assez fort, donc il est pour un régime fort. c'est pas un nazi. D'ailleurs, il ne sera jamais membre du parti nazi. Hein. Il sera décoré, mais il sera jamais membre du parti nazi. Donc, il est pas nazi, mais il pense que Hitler peut être la solution pour rétablir une Allemagne forte, parce qu'il est quand même pan-germaniste. Et il pense que l'Allemagne a un rôle très important à jouer, et il veut aussi récupérer les colonies qui ont été saisies par les alliés au lendemain de la guerre de 14, notamment le Togo, le Cameroun, parce qu'ils pensent que l'Allemagne aura besoin de matières premières et que ces colonies sont indispensables pour les matières premières.
Il y a quand même un fond d'impérialisme, un totalitarisme dans sa vision politique.
Absolument, absolument. Et d'ailleurs, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il considérera que le régime mis en place en République fédérale d'Allemagne n'est pas assez fort. Il est quand même anti-parlementaire aussi. Faut pas l'oublier non plus. Donc, mais le chancelier Konrad Adenauer tiendra largement charte à l'écart de toute fonction politique, eu égard à son passé, bien évidemment.
Alors vous évoquiez tout à l'heure, parce que l'Allemagne, donc l'Allemagne juste d'avant Deuxième Guerre mondiale, et puis celle de la Deuxième Guerre mondiale, a vu quand même un antisémitisme galopant. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'était pas forcément antisémitisme, mais il y avait quand même quelque chose
Il a une certaine judéophobie. C'est-à-dire qu'il n'est pas judéophobe racial, bien qu'il participera quand même à la mise en œuvre des lois anti-juives de 1935 en Allemagne. Hein, il sera parmi les rédacteurs, mais pour lui, en fait, c'est un protestant pur et dur, et pour lui, il est un peu dans le schéma les juifs ont tué le Christ, et les juifs, tant qu'ils font du commerce, c'est bien, il faut... Et d'ailleurs, les persécuter, c'est pas bon pour l'économie. Mais en revanche, il est contre le fait, et il écrit même ça dans les années 50, hein, donc on voit qu'il a pas, il a pas tiré les leçons de son passé. Pour lui, les juifs ne doivent pas s'immiscer dans les professions comme avocat ou dans la culture. Donc pour lui, il considère que ça provoque un rejet de la part du peuple dans lequel ils sont. Ce qui est quand même, pour moi, de la judéophobie, et c'est quand même très grave. C'est quand même un...
Tout à fait, surtout quand on a passé plusieurs procès, et puis les procès d'après-guerre étaient quand même...
Textuellement, je l'ai lu, le passage, lors de la conférence, je ne l'ai pas sous la main, là, mais j'ai lu tout ce passage, il écrit ça dans ses mémoires en 1954. Donc il est quand même passé à la fois au procès de Nuremberg, où il a découvert quand même l'ampleur de la Shoah, et ensuite il est passé entre les mains des tribunaux de dénazification qui étaient mis en place en Allemagne dans ces années-là. Donc en fait, il n'a pas beaucoup regardé le miroir derrière lui, quoi.
Sûr de lui, comme vous disiez tout à l'heure, et j'imaginais qu'il ne devait pas entendre beaucoup ce qui se passait.
C'est pas un personnage très sympathique.
Hein. Oui, c'est. Et alors, oui, et ce qui est étonnant, c'est qu'il passe à travers tous ces procès sans.
Absolument, il sera.
Sans en être inquiété.
En tout et pour tout, je crois qu'il aura une amende de 20 marques. Enfin, c'est.
Ah oui, c'est ridicule.
C'est ridicule.
C'est vraiment ridicule. C'est ridicule. Oui, tout à fait. Mais alors, comment ça se fait qu'il. Enfin, je ne sais pas si dans l'enquête, parce que vous avez réalisé une enquête, vous disiez vous êtes journaliste avant tout. Donc,
oui, absolument.
Quand on s'attaque à cette question-là, le banquier du Reich, j'imagine qu'il y a tout un tas de recherches. Vous l'évoquiez avec la thèse en doctorat qui vous a donné beaucoup d'éléments. Qu'est-ce qui fait qu'au moment il arrive à échapper à tous ces procès, toutes ces accusations? Certains sont tombés, j'ai envie de dire, avec des postes bien moins clés que le sien.
Oui, alors, oui, c'est vrai. Alors, il a réussi à convaincre les juges du tribunal de Nuremberg que finalement il n'avait pas participé au crime contre l'humanité. Donc d'ailleurs il n'était pas inculpé pour ça, il était inculpé plutôt de complot contre la guerre, et il a réussi à prouver qu'il avait commencé en fait dès 1938 à contester le régime d'Hitler, même à comploter. Ensuite il a dit qu'il avait été arrêté en 1944 à la suite de son implication dans le complot de l'opération Valkyrie, mais en fait là il n'y était pas vraiment. Par contre, en 1938, il a effectivement commencé à comploter avec un certain nombre de généraux qui étaient contre le régime nazi. Il a tenté de prendre contact avec les Américains, avec l'ambassadeur, etc. Mais en fait, il voulait obtenir une espèce de paix séparée avec les Américains, mais qui était impensable.
Voilà. Il jouait a priori sur plusieurs tableaux aussi. C'était sûrement un grand stratège, j'imagine.
Il est certainement stratégique. Il est très opportuniste. Il a beaucoup de pragmatisme. C'est clairement un économiste de grand talent parce que dans les années 20, il a résolu le problème de l'hyperinflation. Il a créé quand même le nouveau plan quand Hitler arrive au pouvoir. Et effectivement, il réussit quand même sur le plan économique. Puis après, l'armement demande tellement d'argent qu'il n'est plus d'accord parce qu'il voit qu'on va vers la faillite. Et puis, il ne veut pas aller vers la guerre non plus parce qu'il pense que ça sera le désastre pour l'Allemagne. Mais c'est assez incroyable. Il arrive à se sortir de toutes ces situations qui sont... épouvantable, normalement, avec ce qu'on sait aujourd'hui. Alors, à l'époque, effectivement, quand le tribunal de Nuremberg se passe, on n'a pas connaissance de tout le dessous. Il y a un certain nombre d'archives qui n'ont pas encore été exploitées. On fait quand même ce procès rapidement.
En sortie de guerre, il y a un besoin aussi d'apaisement.
Il y a un besoin d'apaisement. On n'a pas tous les éléments. Oui. On sait aujourd'hui, par exemple, que Albert Speer, qui fut l'architecte d'Hitler, bon, il écope que de 20 ans de prison, hein, notamment il a été aussi responsable de l'opération Todt, des constructions d'usines, enfin, etc. Ils ont utilisé des déportés pour fabriquer des choses, etc. À l'époque, on n'a pas tous les éléments. Avec les biographies qu'on a aujourd'hui d'Albert Speer, je pense qu'il aurait risqué la peine de mort vraiment à Nuremberg. Alors Chartres, il aurait peut-être été... certainement condamné avec ce que l'on sait aujourd'hui, ce que les historiens ont découvert.
Mais après, ancré dans le temps. Il y a aussi une histoire de ancré dans le temps, et à ce moment-là, il y avait besoin d'aller vite.
C'est ça.
Pour apaiser aussi. Enfin, c'était un état de choc quand même. La sortie
trois,
de guerre.
Ils sont trois. Ils sont trois à être acquittés à Nuremberg. Il y a Chartres, il y a l'ancien chancelier von Papen, et il y a un journaliste Fritsch. Qui sont tous les trois acquittés. Sur les 24, je crois, il y avait 24 accusés. Bon, il y en aura 3 d'acquittés. Mais le jour même où il est acquitté, les Allemands le remettent en prison pour le juger au tribunal de dénazification.
Très bien. Parce qu'en fait, la banque, et surtout dans cette période-là, non, en toute période, c'est un vrai pouvoir quand même. C'est un pouvoir qui équivaut au moins... et qui parfois même en certaines périodes est supérieur au pouvoir politique.
Absolument.
Donc c'est quelqu'un quand même qui, avec son importance dans le système financier allemand notamment, c'est un deuxième pouvoir finalement.
C'est un deuxième pouvoir, surtout que les nazis et Hitler en particulier sont nuls en économie. Hein. Ils n'ont aucun plan économique. Et en fait, il est quand même... permis une grande part de l'accession au pouvoir et de ce qui en a découlé et de toute l'idéologie mortifère parce qu'il a entre les mains le pouvoir économique et sans lui Hitler aurait probablement pas réussi à reconstituer son potentiel militaire à recréer un potentiel économique important. Donc moi je pense que Chartres est quand même largement complice de la réussite des nazis.
Alors vous êtes attaqué à ce scénario avec Pierre Boisserie. On le disait tout à l'heure, vous avez déjà fait plusieurs séries ensemble. Oui, oui. Comment est-ce qu'on aborde un moment historique ? Parce que autant avec Dantès et puis la banque, c'est pas un événement historique sur la banque.
Dantès, c'est une transposition du Comte de Monte Cristo dans l'univers de la finance contemporaine. Donc là, on est plus sur les traders. On a un peu travaillé sur les traders fous, les rock traders qui font sauter les banques, etc. Donc là, on était plutôt dans du contemporain. Sur la banque, c'est l'histoire d'une famille de banquiers qui sont fictifs. Hein, c'est une famille fictive, mais qui évolue dans un contexte historique avec des événements historiques réels. Donc on a complètement mélangé l'histoire de la famille avec les événements réels. Donc que ce soit la bataille de Waterloo, le scandale de Panama, le milliard des émigrés sous la restauration. décoration, etc. Donc là aussi, il y avait un gros travail historique. Alors, c'est moi qui travaille sur tous les événements historiques propose à Pierre de les intégrer de telle et telle manière dans l'histoire.
Il y a une séparation quand même de Pierre qui serait plutôt, donc Pierre Boisserie qui serait plutôt sur la
Pierre
partie romançage, voilà. Et vous, Philippe Guillaume
Disons qu'on travaille ensemble au départ, on a une idée et on se dit, ben voilà, comment est-ce qu'on va la mettre en œuvre. On travaille ensemble l'ensemble du pitch et du synopsis, et ensuite Pierre, lui, se fait plus précisément le découpage. Voilà.
D'accord.
Et on travaille en étroite collaboration tous les deux, et on a un plaisir partagé, et on continue de travailler, puisqu'on travaille maintenant sur un autre projet qui viendra en 2022.
On conclura tout à l'heure notre échange sur ce projet de 2022. Alors justement toutes ces recherches historiques, vous parliez tout à l'heure de la thèse en doctorat, les éléments où aujourd'hui on arrive à avoir beaucoup de documentation sur cette période. C'est peut-être une période d'ailleurs sur laquelle il existe peut-être, j'allais dire pas presque trop de documentation, mais sur lequel ça fourmille quand même. Il y a eu
sur
beaucoup
Chartres,
de travail dessus.
Sur Chartres,
pas grand-chose en particulier.
Sur Chartres, il y a pas énormément de choses. Sur Chartres, d'abord, j'ai passé beaucoup de temps à rechercher ces mémoires qui ont été éditées en 1954, donc qui ont été éditées sur deux tomes qui ne sont plus édités, donc je les ai trouvés chez des bouquinistes. Il a écrit un autre bouquin qui est encore plus dur à trouver avant ces mémoires, qui s'appelle Seul contre Hitler, dans lequel il dit pas mal de choses. Alors on avait ces éléments-là. Après, il y a eu en 2015 un ouvrage qui a été fait par un trader qui s'appelle Bouchard, dont le titre du bouquin est Le banquier du diable, très beau titre qu'on n'a malheureusement pas pu réutiliser, il était déjà pris. Le banquier du diable, mais qui est essentiellement fait à partir des mémoires de Chartres. Donc c'est assez panégyrique de Chartres. Disons que, parce que le personnage aussi, en termes, c'est un grand économiste. Dans les années 30, il est extrêmement réputé, on le connaît aujourd'hui, plus personne n'en entend parler. Parce qu'on a mis un peu tout ça sous le boisseau, évidemment, compte tenu de son passé un peu sulfureux. Mais le bouquin de Bouchard, qui est paru en 2015, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, me semble-t-il, est un peu trop pro-Chartres. Voilà. Donc il fallait aller au-delà, il fallait rechercher ailleurs. Bon, il y a eu un documentaire aussi qui est passé sur Arte, je crois, qui avait été fait sur le personnage, mais qui est intéressant. Mais qui, là encore, il n'y a pas eu énormément de travaux. Je vous dis, le seul grand véritable travail, c'est la thèse de Claverte.
Donc du coup, il y a eu un véritable travail d'enquête, en fait.
C'est
pas juste du collectage d'informations,
non,
c'est un travail d'enquête que vous avez réalisé.
Oui, et puis c'est un sujet à prendre avec des pincettes. Je veux dire, il fallait pas. On voulait donner notre vérité et notre question que nous nous posions, c'est a-t-il sciemment ou non participé à l'idéologie mortifère nazie, comment peut-on le présenter, comment, voilà. Mais il fallait donner le droit à la défense, le droit à l'accusation, donc il fallait être relativement prudent, et on donne notre vision de ce que nous pensons de Chartres. Oui, Chartres n'a pas beaucoup regardé dans le rétroviseur, et il est resté jusqu'à sa mort, malheureusement, il a considéré qu'il n'avait pas fait d'erreur, c'est dommage.
Ouais, au vu de l'histoire, oui, ça reste assez dommage. Tout de même. Au dessin, c'est Cyril Ternon.
C'est un Normand.
C'est un
dessinateur normand, il habite Caen.
Alors, quel lien y avait-il ou y a-t-il avec Cyril Ternon ?
Ah ben c'est simple. Quand on a proposé le projet à Glénat nous a dit « Ah ben on verrait bien tel dessinateur ». Ils nous ont présenté Cyril, qui a fait un boulot, moi je le connaissais pas, enfin je le connaissais un petit peu, j'avais lu un ou deux albums qu'il avait fait précédemment, notamment La Conjuration des Vengeurs chez Glénat, donc j'aimais bien son dessin, et puis il a fait un travail formidable, parce que beaucoup de choses se passent dans le Berlin des années 30, et du Berlin des années 30, il n'en reste pas grand-chose aujourd'hui. Donc il y avait des reconstitutions, etc., qui étaient... il a fait un boulot vraiment, vraiment formidable.
Parce qu'il y a un boulot aussi documentaire dans le dessin.
Documentaire. Alors on lui envoie, on lui a envoyé beaucoup de choses, parce que quand on a travaillé, on a fait beaucoup de recherches sur Internet, etc., notamment rechercher... bon, il y avait quelques photos dans ses mémoires, dans les mémoires de Chartres, il y a quelques photos. Parce qu'il s'est marié deux fois, donc il y avait la photo de sa première famille, la photo de sa deuxième famille. Mais on en a cherché d'autres. Bon, il y a un gros travail documentaire, oui.
Quand on s'attache à des personnages historiques, c'est des visages qui existent, c'est des visages qu'on connaît, en plus pour certains. Il y a eu un travail de dire au bout d'un moment, on veut au bout d'un moment que ce soit ressemblant, où il y a une liberté sur le dessin qui était entendue. Enfin, était un peu l'objet de chercher la ressemblance.
Les personnages sont ressemblants. Quand vous dessinez Göring ou vous dessinez fatalement Hitler, bon là on n'a pas de difficulté. Hein, il y a toutes les photos qu'on veut.
Hein, oui, ça y est. Voilà, sur celle-là, oui.
Bon, voilà. Ils sont dans l'album. Ils ne seront jamais dessinés en dédicace, ça, je peux vous le dire. mais oui, on a essayé d'être au plus près de la réalité des choses. Après, bon, la première rencontre de Chartres et d'Hitler dans l'appartement de Göring, on n'a pas cherché à retrouver des photos de l'appartement de Göring.
Voilà, ça n'apporte pas forcément d'intérêt historique sur le propos traité.
Exactement.
Oui,
exactement.
Oui, c'est ça. Oui, la limite au bout d'un moment, c'est de se dire qu'est-ce que ça apporte.
Voilà, on est. Moi, je sais qu'il y a des dessinateurs qui sont très pointilleux et que peut-être il y aura ce qu'on appelle les pointillistes qui viendront nous dire là vous avez fait ceci ou cela. Non, par contre, on essaye d'être de pas mettre un uniforme d'un officier de la Wehrmacht quand c'est un SS, par exemple.
Oui. Là, pour le coup, ça, c'est entendable quand même.
Voilà, on essaye d'être le plus proche possible, mais une fois encore, on cherche à apprendre quelque chose tout en divertissant, donc on ne prétend pas être des historiens. Voilà.
Cela dit, comme je le disais en début d'échange, il y a un réel travail journalistique quand même qui a été fait sur cet album.
Ça me ressemble plus à mon travail que j'ai fait pendant 40 ans de journaliste qu'à un travail d'historien, mais j'essaye d'être quand même au plus près de la réalité. Je sais, par exemple, dans la banque, dans les ouvrages de la banque, moi je fais un cahier éditorial à la fin, qui recontextualise un peu les différents événements dont on parle. Ce sont des ouvrages qui sont utilisés par des profs en lycée ou en préparation Sciences Po.
Ce qui veut dire que le contenu est là quand même. Tout à fait. Donc je disais, on parle du banquier, le banquier du Reich. Le premier tome est disponible actuellement.
Depuis le 28 février. Il a été un petit peu interrompu par le confinement, mais voilà.
Tout à fait. Donc c'est donc au scénario Philippe Guillaume, donc vous, Pierre Boisserie et Cyril Ternon au dessin.
Chez Glénard, on peut.
Voilà, c'est chez Glénard. Pardon, oui, aux éditions Glénard. Glénat, tout à fait. Il y a un deuxième tome qui apparaît là très prochainement.
Le 23 septembre.
Et la question que je vous posais tout à l'heure, est-ce que c'est une histoire en deux tomes ou il y aura d'autres tomes ?
C'est une histoire en deux tomes. Voilà. Donc l'histoire sera complète et on aura la vision et la conclusion sur... parce que j'ai lu quelques critiques où les gens s'interrogeaient si nous avions été plus ou moins gentils avec Chartres. Et bien les gens verront quelle est notre position sur le personnage. Dans le deuxième tome, je crois qu'on livre bien ce qu'on en pense.
Oui, parce que c'est ça, quand on lit des ouvrages de ce type qui retracent une histoire, il y a un positionnement au bout d'un moment qu'on a. Vous évoquiez tout à l'heure le livre de 2015 qui était un peu pro-Chartres.
C'était un très bon travail, mais qui a été fait essentiellement à partir des mémoires de Chartres. Donc forcément orienté.
Tout à fait. Et du coup, ça fait partie tout à fait d'ouvrages sur lesquels on attend d'avoir un positionnement ou pas, quand même, mine de rien. Et quand on lit, ça ne peut pas être neutre, en fait. Oui.
Le banquier du diable s'intéressait quand même essentiellement beaucoup plus à l'aspect économique du personnage qu'à sa position par rapport au reste du régime nazi.
Et donc, pour terminer, il y a le banquier du Reich, là, donc deuxième tome qui va paraître 22 septembre.
23 septembre.
Vous me disiez, bon, il y a d'autres projets aussi pour 2022, des choses comme ça. Toujours avec Pierre Boisserie.
Oui, avec Pierre, nous avons entamé.
C'est un binôme. Là, vous êtes sur un binôme et il y aura pas de. Ou il y a du boulot solo aussi des deux parties.
Moi, je fais un petit truc solo en ce moment, mais Pierre aussi fait beaucoup d'autres choses. Mais on a très envie de continuer à travailler ensemble sur des sujets. Ça sera encore un sujet à connotation financière, puisque ça sera chez Dargo. Cette fois-ci, on va retourner chez Dargo. Et ça s'appelle L'Or des Belges. Et donc, on va raconter avec. Il y aura quand même un côté fictionnel parce que c'est une histoire incroyable. On va raconter comment les nazis se sont emparés de l'or de la Belgique qui avait été confié à la Banque de France en mai 1940. Et donc ça va être avec on va voyager en Afrique, vous allez voir, c'est une histoire totalement rocambolesque.
Et une fois de plus qui s'appuie sur la réalité historique.
Sur une réalité historique, mais il y aura davantage de fiction que dans le banquier du Reich, parce que quand on commence à vous expliquer que l'or est remonté de Dakar jusqu'à Alger, à travers l'Afrique, par voie ferrée, bateau, sur le Niger, chameaux, dans le désert, dans des camions, vous pouvez pas ne pas penser à 100 000 dollars au soleil ou un taxi pour Tobrouk, etc. Donc on s'est amusé à introduire quelques personnages fictifs qui vont essayer de s'emparer de cet or.
Forcément, dès qu'il y a de l'or qui voyage, de toute façon, il y a forcément des flibustiers qui veulent s'en emparer.
Ça sera donc parution a priori début 2022 pour le premier tome et août 2022 pour le deuxième tome. Ça sera encore en deux tomes. Et là, on retravaille avec un dessinateur qui avait fait les tomes 5 et 6 de la banque, qui s'appelle Stéphane Brangier, avec lequel on adore travailler. Voilà, et puis il y aura peut-être d'autres choses avec Cyril, parce qu'on a adoré travailler avec lui et cette époque, l'époque de l'entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre mondiale est particulièrement passionnante. J'ai encore quelques personnages à découvrir sur des côtés économiques, management, etc. Il y a des personnages sulfureux assez intéressants à explorer.
Très bien, merci beaucoup à vous Philippe Guillaume.
Merci de m'avoir reçu.
Je vous rappelle, donc Philippe Guillaume et Pierre Boisserie au scénario notamment de Le Banquier du Reich, avec un premier volume déjà sorti et un deuxième tome qui arrive le 23 septembre. Au dessin, c'est Cyril Ternon. Mais les collaborations Philippe Guillaume et Pierre Boisserie, c'est aussi Dantès et la série La Banque. Merci beaucoup d'être passé par nos micros.
Merci à vous.